Notre soleil va mourir. Le genre humain est menacé de disparition. Il y a 16 mois, moi, Robert Capa, et une équipe de 7 personnes avons quitté la Terre, gelée dans un hiver solaire. Notre mission, réenflammer le soleil, avant qu'il soit trop tard.
Il faut qu'on envoie une charge explosive au centre du soleil. Cette étoile va mourir. Et si elle meurt, nous mourrons. Putain, qu'est-ce qui se passe?
Risque de dommages collatéraux sur les systèmes de survie.
Non! On va mourir ici.
On ne va pas mourir ici.
Commandant!
Vous mourrez. Tout l'équipage meurt.
Nous avons assez d'oxygène pour garder les 4 membres en vie.
Affirmatif.
Il reste donc seulement 4 membres.
Négatif. 5 membres d'équipage.
Qui est le 5e membre?
Inconnu.
Rien ne survivra. Pas vos parents. Pas vos enfants. Pas même le soleil.
Salut à tous et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma. Et donc, oui, la bande-annonce donc d'Un soleil qui meurt, on parle donc bien évidemment de Sunshine, de Danny Boyle, avec une bande-annonce qui ne représente pas du tout le film.
La vache.
Hein, ça, tu ressens les années 2000 là d'un seul coup avec cette reprise de la musique du Requiem for a Dream et tout
le
bordel?
Je ressens surtout pas du tout la tonalité un peu mélancolique du film. Enfin bref, il y a déjà un problème. On est là depuis 10 secondes, il y a déjà un problème.
Il y a déjà un problème. Salut Jérôme, comment tu vas?
Salut Roland, j'ai attrapé un petit coup de froid, donc je m'excuse d'avance pour les possibles errements au niveau de ma voix et tout ça. Donc,
eh bah écoute, ça tombe bien. Moi, j'ai un début d'allergie, donc
parfait.
On est dans les carcans parfaits pour parler de ce film où il fait froid, parce que bien évidemment, donc le soleil est en train de mourir, c'est l'histoire du film. Mais avant de revenir à fond sur le film, il faut bien évidemment revenir sur la production et sur les deux hommes importants du film, à savoir Danny Boyle et Alex Garland. Alors Danny Boyle, donc c'est un réalisateur britannique, il est né le 20 octobre 1956 à Radcliffe, et ça c'est très important, on va revenir beaucoup plus tard là-dessus. Sa famille est issue d'une classe ouvrière catholique irlandaise, donc ils sont très très à fond dans la religion, et c'est ce qui va notamment forger l'éducation de Danny Boyle par la suite. Après, il se relèvera un peu plus agnostique, forcément. Il va se redéfinir un peu plus sur notamment le drame et la télévision, car c'est à la base dans ces endroits-là où il a commencé à travailler, parce qu'il venait dans, on va dire, des petits patelins, donc il n'a pas commencé par le cinéma. Il va revenir au cinéma plus tard, notamment à partir de 94, avec notamment deux comédies noires, donc Petit meurtre entre amis en 94, et bien évidemment le film qui va le propulser en 96, Trainspotting.
Ouais. Ouais, bah Trainspotting, qui est un peu symptomatique du style de Danny Boyle dans sa, on va dire, première partie de carrière. Je maîtrise un peu moins la deuxième, mais c'est un petit peu un cinéma qu'on a tendance à aimer quand on est ado, parce qu'il
très nerveux.
Très nerveux, très frénétique et un peu, on va dire, à la cool, quoi.
Ouais.
Très populaire aussi, avec beaucoup de musique déjà composée, quoi, de groupes populaires, etc. Donc,
c'est ça. Bah, le film commençait notamment avec la musique Lust for Life, donc de Iggy Pop, avec un style très barré, sous speed en termes de montage. On est vraiment Boyle. En fait, je pense que c'est un réal très représentatif des années 90.
Ouais.
La génération MTV, post-MTV,
ouais,
qui commence à arriver.
Ouais, clip, montage rapide, effet de style, un peu post-moderne, etc. Ça aura une certaine importance dans Sunshine aussi, dans la manière dont il est construit au niveau de son esthétique. Mais on peut peut-être parler de la rupture qu'il opère en 2003 un petit peu.
Oui,
je sais pas si tu avais.
Clairement. J'allais revenir un petit peu là-dessus, parce que forcément, après Trainspotting, là où il est totalement mis en avant, le film est devenu instantanément culte. Il va s'en suivre en fait deux échecs critiques et commerciaux. Tout d'abord avec une comédie familiale, donc Une vie moins ordinaire, enfin plutôt comédie romantique en 97, et surtout La plage en 2000, film qui lui instaurait déjà les premiers pieds à Hollywood, et là il va un petit peu se prendre les pieds dans le plat.
Ouais, et puis il a des contraintes, quoi.
Beaucoup de contraintes de production, ce qui va un petit peu l'énerver d'ailleurs en tant que réalisateur. Et c'est vrai que donc c'est à partir de 2002-2003 où il va y avoir un gros retour en avant grâce à 28 jours plus tard. Donc un des gros films de sa filmographie.
Ah bah le film le plus important, je pense, de sa filmographie, dans la mesure où il fait partie avec L'Armée des Morts de Snyder de ce renouveau de la vague zombie horrifique. Même si c'est pas vraiment des zombies, c'est des infectés, quoi. Donc,
très clairement, oui, c'est le porte-étendard même de cette génération-là.
Ouais, c'est ça. Et puis là, c'est tourné avec un budget assez réduit. Il y a cette image de grain d'évé un peu, etc. Et puis c'est le premier rôle important de Cillian Murphy qui va revenir ensuite dans Sunshine. Et mais ouais, 28 jours plus tard, il cristallise pas mal de passion, parce que c'est un film aussi qui met en avant énormément son ambiance, son sound design, sa musique, son atmosphère et l'évolution de personnages assez clichés dans l'écriture, mais qui vont permettre d'élever la mise en scène au rang de quelque chose quand même d'assez costaud et de à mi-chemin entre le cinéma populaire et le cinéma indé.
C'est ça, il y a toujours quand même un univers très très sombre chez Boyle, malgré, on va dire, cette petite couche glacée de mièvrerie qui peut arriver par-dessus. C'est vrai que donc avec donc le gros retour donc de 20 jours plus tard, c'est un gros retour en fait en avant pour Boyle, mais aussi pour un scénariste qui a donc écrit ce film, c'est Alex Garland, donc le deuxième gros personnage de l'histoire, car en fait Alex Garland, donc c'est la deuxième collaboration en fait avec 20 jours plus tard, parce qu'en fait ils ont déjà travailler ensemble plus ou moins déjà avec La Plage.
Ah, avec La Plage.
Car La Plage, en fait, c'est un roman écrit par Alex Garland, qui, bien évidemment, aussi a collaboré avec Boyle par la suite pour le faire en long métrage.
Alors, pour rappel, juste simplement, Alex Garland, on peut le voir en ce moment même, je crois, encore au cinéma dans Civil War. Enfin, c'est le réalisateur de Civil War qui est en
scène. C'est exactement ça, oui. J'allais revenir un peu plus sur la fin
de l'émission. Mais bon, là, c'est juste histoire de poser
voilà,
le contexte.
Oui. Alex Garland, finalement, c'est à la base un scénariste qui va plus tard devenir d'ailleurs cinéaste, à force de traîner avec des gars comme Danny Boyle. Après cela, donc, Boyle va tourner donc, Millions, qui sort en 2005. Donc, c'est un petit film familial qui est ayant pour thème d'ailleurs... pour thématique la religion. C'est l'histoire d'un petit garçon protagoniste de l'histoire, donc qui voit notamment les saints comme ses amis imaginaires. C'est un film très personnel pour Boyle, car en fait ce dernier, forcément, comme je l'ai dit, donc il a une éducation catholique assez stricte qui va donc forger forcément plus tard sa vision d'adulte sur la religion, et d'ailleurs devenir agnostique par la même. Mais il va pas forcément se démarquer, vouloir garder le mettre à côté. En fait, il va vraiment quand même garder cette éducation, ces thématiques pour plus tard l'utiliser dans ses films, et c'est ce qui va l'être aussi forcément avec Sunshine. Mais donc en 2004, donc Garland retrouve Boyle en fait dans un pub à Londres sur Tottenham Cop Road, et donc en fait va lui tendre le premier jet du script, donc de ce que ça va être Sunshine, alors qu'à la base Danny Boyle devait en fait enchaîner un film qui s'appelle 30,000 Degrees, et finalement donc lisant le script, Boyle sent le projet en fait peut-être arriver à bon terme, à bon sens, surtout qu'en fait c'est un sujet qui est très intéressant pour lui, car c'est un gros fan de science-fiction. Il ne s'est pas lancé dans la science-fiction parce qu'il se trouvait encore beaucoup trop vert à l'époque. On lui avait même proposé notamment le projet
4.
Alien 4,
exact,
qui est donc revenu chez Jean-Pierre Jeunet. Et Boyle en fait se dit, il est peut-être temps de passer sur ce sujet-là.
Ouais, c'est un script qui a éveillé chez lui l'envie de mettre ça en scène d'un point de vue visuel et technique, parce que là c'était son gros défi à lui. Là où Alex Garland, il expliquait avoir eu toujours envie d'écrire un gros film de science-fiction avec des enjeux hyper, hyper, hyper forts. C'est le moins qu'on puisse dire. Il s'agit quand même de sauver l'existence tout entière, quoi. Même de tout ce qui existe presque. Donc ouais, voilà, les deux se sont retrouvés sur ce script en 2006.
C'est ça.
2006-2007.
Oui. En fait, Boyle, tout d'abord, en fait, voulait insister que le film se fasse d'ailleurs en Angleterre, parce qu'il voulait donc garder les plans pouvoirs artistiques. Mais le problème, c'est quand on fait un film de science-fiction, ça demande énormément d'argent. Et donc arrive par la même, donc en fait, l'un des plus grands collaborateurs de Boyle dans sa carrière, c'est Andrew MacDonald. Andrew MacDonald, avec sa société DNF Film, parvient donc, notamment avec l'aide financière de Fox Searchlight, donc Fox tout court, mais Fox Searchlight
c'est
est
la branche indé.
indépendante, ouais, voilà, de la Fox, Fox, ouais, va réussir donc à brandir, on va dire, un budget de 40 millions.
Ouais, qui donc, est énorme pour Danny Boyle.
C'est absolument énorme. Mmh. Danny Boyle n'avait jamais eu autant d'argent, il savait pas trop quoi faire avec.
Et surtout, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas les films à FX, à effets spéciaux, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel il était un petit peu inquiet et puis un petit peu novice, quoi.
Donc Boyle va quand même se lancer sur ce projet, mais tout d'abord, il voulait voir un truc avec Alex Garland. C'était que pour lui, l'approche froide et athéiste de Garland sur le script posait problème pour, on va dire, le résultat final. Alors, il décide en fait d'y rajouter donc une dimension spirituelle. Donc, ça va être une collaboration peut-être un petit peu compliquée entre les deux, notamment sur l'écriture, même si donc Garland restera seul crédité au générique en termes de scénariste. Et c'est vrai qu'en fait, quand on voit notamment donc cette volonté de réécriture, d'ailleurs, il va enlever plusieurs éléments que Garland avait écrits, notamment l'intrigue amoureuse sur plusieurs personnages. Mmh. Il reproche également donc l'approche de Garland, qui est assez froide, donc assez trop scientifique. Pour Boyle, en fait, il est nécessaire donc de rajouter une dimension spirituelle, rajouter en fait un mysticisme. Et quel élément de mysticisme est très important pour un film de cette pareille? Forcément, c'est le soleil.
Mmh, bien sûr. Ouais. Donc, c'est peut-être le moment de résumer l'intrigue du film, non? Qui peut
un petit peu vite fait. Surtout que je voulais revenir un petit peu après sur le casting, parce que ouais, c'est très important aussi de revenir sur le casting en lui-même. Alors oui, donc en fait l'histoire, donc c'est donc on est en 2057 pour une raison inexpliquée en fait. Donc le soleil est en train de mourir. Et donc un vaisseau en fait, un équipage donc de 8 astronautes en fait est envoyé dans l'espace donc pour tenter de le rallumer.
De poser avec une charge
thermonucléaire, l'équivalente de l'île Manhattan. De Manhattan. Ouais. Ce qui à la base dans les scripts était quasiment l'état du Kansas, voire même un peu plus en fait. Donc en fait en gros c'est les dernières ressources de la Terre, de l'humanité pour la mission de la dernière chance. Ce à quoi sinon il n'y aura plus rien.
Ouais. Et donc évidemment le soleil va avoir ce rôle d'un petit peu de personnage, mm-hmm, d'une certaine manière, de personnage de créateur, quoi, de personnage mystique et métaphysique. Donc la plupart des personnages vont évoluer avec vraiment cet absolu en eux, et puis bon, ça contrebalance avec le fait qu'ils évoluent dans un vaisseau quand même assez assez clinique, assez aseptisé et assez sombre.
Et donc forcément, qui dit personnage, donc il faut également travailler sur le casting. C'est très intéressant d'ailleurs en termes de casting ce qu'il a fait donc Danny Boyle, parce que pour lui, on est donc en 2007, on était encore donc sur une vision très, on va dire très occidentale sur ce que va devenir en fait le futur de l'aérospatiale. Et donc Danny Boyle avait déjà lui dans le script, c'était pas déjà vraiment annoncé par Garland, mais lui il pensait déjà aussi qu'il y avait forcément une évolution du côté asiatique, donc notamment de la Chine, sur forcément la conquête spatiale. Et donc c'est pour ça qu'en fait l'histoire et le film, en fait, je pense d'une certaine manière, sociétalement parlant, Danny Boyle voulait vraiment un casting totalement international pour montrer aussi que le sujet du film et la mission, en fait, elle était surtout en majorité humaine
et internationale. Ouais. Il expliquait aussi qu'il aurait voulu encore plus l'internationaliser, mais que pour des contraintes de production, notamment hollywoodienne, il a pas pu aller exactement où il voulait. Mais bon, le film c'est suffisamment visible, on va dire, cet éclectisme dans le choix des personnages pour qu'on comprenne facilement que c'est le but numéro un.
C'est ça. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est assez marrant parce que quand il a travaillé sur le casting, en fait, il avait déjà des noms cochés pour ce projet. Et l'un des noms, en fait, les plus importants et que pourtant pas le rôle principal, c'est celui de Michelle Yeoh. Il a contacté Michelle Yeoh, il voulait absolument bosser avec elle. Il lui a envoyé une lettre d'amour.
Après avoir vu Demain ne meurt jamais, visiblement. C'est ce qu'il disait, il est tombé amoureux d'elle en regardant Demain ne meurt
jamais. Alors que la petite filmographie de Michelle Yeoh, elle n'est pas. voilà quoi, elle a une carrière immense à Hong Kong, elle a fait des immenses films là-bas. Mais Boyle donc la voulait absolument et donc lui a même proposé de choisir son rôle. Mm-hmm. Elle a choisi donc le rôle de Kara, la biologiste. Pareil au niveau asiatique, donc il va prendre Hiroyuki Sanada, donc acteur japonais, pour le rôle du capitaine. Chris Evans, Très intéressant en fait le choix de Chris Evans, parce qu'en fait donc il n'était pas du tout encore la star à Hollywood et compagnie, notamment donc le premier, on va dire la première incursion de Chris Evans dans les gros projets hollywoodiens, ça devait être les 4 Fantastiques, le film n'était pas encore sorti, mais en fait c'est la suite d'une rencontre, et en fait impressionné durant la rencontre qu'il a eu avec cet acteur, et à lui avoir fait quelques petites parties de casting, il l'a engagé en fait finalement sur le champ. Parce qu'il le trouvait très intéressant sur la façon de réfléchir à son personnage, en fait. Mmh. Et forcément, on a aussi un casting très anglo-saxon, très anglais, avec notamment donc Benedict Wong, Cliff Curtis, donc le néo-zélandais, et aussi donc forcément les acteurs britanniques Rose Byrne ou encore Mark Strong. Ouais. Et donc Cillian Murphy a le rôle principal de l'astrophysicien. On pourrait dire c'est normal puisqu'il a déjà bossé et collaboré avec Danny Boyle, mais pas vraiment en fait. Boyle, il y a en fait... Il était très sceptique que Murphy puisse avoir le rôle principal de Kappa, parce qu'en fait, c'est un rôle écrit comme un personnage américain. Donc, il fallait qu'il ait un accent américain et compagnie. Et en fait, il a été plutôt impressionné par Murphy sur son travail donc, dans le premier Batman Begins de Nolan, d'avoir effacé son accent irlandais, parce qu'il a un vrai accent irlandais, hein, Cillian Murphy, dans la vraie vie. Et donc, il va décider de le prendre pour le film. Alors, la préparation est très importante aussi, car Boyle, en fait, est un peu... aussi un très adepte de la méthode en tant que réalisateur, donc il veut vraiment plonger ses acteurs dans ces rôles-là. Qu'est-ce que l'on peut faire quand on envoie ces acteurs?
Je crois savoir ce que tu vas dire.
Qu'est-ce que l'on va faire donc quand on a des acteurs envoyés dans l'espace?
Eh ben, on les fait vivre ensemble dans des espaces clos et confinés, notamment dans un dortoir à Londres.
De logement étudiant.
Ouais, de logement étudiant. En fait, il leur avait fait croire qu'ils allaient vivre ensemble dans une espèce d'hacienda magnifique, et les mecs se sont retrouvés dans une auberge de jeunesse, quoi, ou dans un dortoir. Je sais plus.
Je trouve ça magnifique.
Ouais, c'est assez beau, mais en fait ça a quand même plutôt bien renforcé la cohésion du groupe.
C'est ça, parce que le but en fait c'était donc de faire bâtir un esprit de groupe et c'est une cohésion, ouais, en fait afin qu'il soit dynamique entre eux en fait.
Et de comprendre ce qui pouvait clocher au niveau psychologique et puis au niveau peut-être de l'impatience de chaque personnage. En fait, voilà, remettre l'humain très au centre de toute cette entreprise, quoi. Parce que bon, le film va être à mi-chemin constamment, il va faire des écarts entre l'humain, le scientifique et le métaphysique et le mystique, quoi. Donc tous ces passages de scènes de vie entre les personnages vont être développés comme ça. D'ailleurs, il y a pas mal de scènes coupées qui sont des scènes de vie. Il y a une partie d'échec, il y a un moment donné où Michelle Yeoh elle récolte des carottes, il y a une scène de cuisine, il y a pas mal de petites choses comme ça qu'il a finalement coupé pour mieux rythmer le film.
C'est ça.
Mais voilà, et puis à côté de ça, et ben il leur a fait des entraînements assez intensifs, notamment de vol en gravité zéro,
en apesanteur,
et il les a emmenés aussi dans un sous-marin
thermonucléaire
histoire de comprendre la notion de
vivre en confinement.
De vivre en claustrophobie.
Ouais,
ils auraient pu regarder le film de Wolfgang Petersen, ça suffisait, quoi. Mais
non, fallait le vivre pour ça. Et en plus, donc, Cillian Murphy a passé beaucoup de temps également avec un vrai physicien, Brian Cox, donc était engagé sur le tournage comme consultant et qui finalement va rester plutôt pas mal de temps durant le tournage, quoi. Et d'ailleurs, c'est un tournage qui va durer 3 mois, qui a commencé donc le 23 août 2005 au studio 3 Miles de Londres, donc dans des conditions extrêmes pour les acteurs, car en fait, c'était très compliqué, notamment sur les scènes avec les combinaisons.
Ouais.
Les combinaisons spatiales dans ce film, en fait, elles sont assez larges, assez grandes, dorées, avec des grands casques, d'ailleurs, assez inspirées des combinaisons de samouraïs, enfin, des techniques d'habillage de samouraïs japonais.
Il y a eu énormément de design. J'ai vu une interview de la personne qui s'occupait du design. Il y avait une personne qui s'occupait exclusivement du design des combis, quoi. Donc ils sont vraiment allés chercher entre les trucs un peu représentatifs, comme tu dis, des combis
de la culture asiatique,
et en même temps le côté scientifique avec les trucs qui captent les rayonnements, etc. Donc donc voilà, il y a eu tout ça, et puis et voilà, je te laisse continuer.
Oui. Et donc voilà, ça a été très compliqué. Il y a des acteurs qui, notamment Hiroyuki Sanada, qui est passé une journée dans la combinaison, qui est allé à l'hôpital par la suite. On a Chris Evans qui lui a pas mal souffert, notamment sa scène où en fait son personnage se sacrifie, donc va se retrouver dans une eau vraiment glacée parce que Danny Boyle voulait absolument qu'il ressente la froideur
et
le personnage et les conditions dans lequel il est en train de mourir en fait.
Ouais, C'est l'unité centrale qui a besoin d'être dans un liquide de refroidissement.
Voilà, dans la liquide d'azote.
Ouais, liquide d'azote.
On envoie Chris Evans dans de l'eau glacée.
Évidemment, Il y a une toute première scène d'ailleurs qui prépare un petit peu à ça, quoi, parce qu'il perd une clé à molette et il la récupère très rapidement.
Le film a beaucoup d'éléments de foreshadowing.
Ce principe de foreshadowing, ouais, qui est de donner un indice sur le déroulement du. Avec un élément de détail, de donner un indice sur un élément beaucoup plus central par la suite.
Ouais. C'est ça. Alors, ce fut un tournage compliqué, en partie pour Boyle également, parce que lui, il voulait que tout soit convaincant et plausible. Et c'est vrai qu'en fait, Boyle est plutôt enclin à suivre un peu son instinct et ses impulsions du moment durant les tournages. Mais le problème, c'est que quand on fait un film de science-fiction où il y a beaucoup d'effets spéciaux, on doit se concentrer, se focaliser forcément sur le travail en amont. Et bien évidemment, on parle donc du storyboard, c'est chose que Danny Boyle a eu beaucoup de mal. Et c'est pour cela qu'en fait, il a fait appel à une seule société d'effets spéciaux, donc la London Movie Pictures Company, qui pouvait se concentrer uniquement sur ce film et ne pas avoir, on va dire, de divergence artistique, et que Boyle puisse contrôler en fait chaque entreprise et chaque personne sur ce projet-là, quoi. Mais c'est vrai que pour lui, ça a été très compliqué.
Bah,
et
il voulait quelqu'un qui n'est pas habitué à travailler de cette façon-là. Et puis, en fait, il explique qu'il doit envisager son film avec des gros creux, quoi.
C'est ça.
Qui vont être ensuite comblés par la post-prod et par les effets spéciaux. Mais plusieurs mois, voire quasiment un an plus tard. Donc, il doit tout concevoir en anticipant ces zones vides.
Il a essayé au max en fait d'éviter le plus de fond vert possible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plans avec le soleil. En fait, c'était des immenses écrans en fait où les acteurs pouvaient vraiment se focaliser là-dessus. Et c'est vrai qu'en fait, la post-production a été plutôt longue, tellement longue qu'en fait que ça a retardé la sortie du film et que ça a englobé, on va dire, un petit dépassement de budget de 5 millions. Et forcément, le résultat tient quand même plutôt bien la route, il faut quand même le signaler.
Bah oui, puisqu'on a d'un côté un technicien de l'image comme Danny Boyle, et puis justement, il s'est entouré d'un chef-op pour qui ça a été un grand défi le grand défi de savoir comment représenter quelque
Alvin
chose comme
H. Köchler, un directeur de la photographie allemand.
Ah, c'est un allemand.
Ouais, qui a fait un boulot absolument exemplaire sur le traitement de la lumière.
Ouais, c'est comment représenter le soleil, quoi, à l'image, sachant que le soleil, il va être filtré par le vaisseau et les personnages vont avoir un petit peu en eux ce côté, encore une fois, métaphysique de la petitesse de l'homme face à la grandeur de la, finalement, de la création, quoi. Et ils vont vouloir constamment voir l'éclat du soleil à son plus grand,
comme
à son maximum, quoi.
Tout début du film, en fait, on voit le personnage de Searle, donc campé par Cliff Curtis, qui est donc le psychiatre dans la compagnie, donc en fait se met constamment à regarder le soleil, mais il est qu'à 30%, il ne peut pas plus, et il va même quand même jusqu'à se brûler la peau. On le voit, il a des petites scarifications par de là même, mais il ne peut pas plus en fait, parce que le soleil est tellement puissant.
Ouais, sinon il y a des dommages irréversibles. Enfin, ils ont une unité centrale, du coup, qui est un petit peu comme le HAL de 2001.
Clairement, ouais.
Et donc ils ont embauché une comédienne principalement pour ce rôle, qui a eu pas mal d'essais et pas mal de voilà, elle s'est imprégnée de ce, finalement elle jouait une machine, quoi. Et du coup elle humanise beaucoup aussi cette unité centrale, ce robot, quoi. Et donc ils vont souvent faire appel à elle pour savoir jusqu'à où ils peuvent aller en termes de non seulement d'oxygène, mais aussi de leur rapport au soleil en termes de ce qu'ils peuvent regarder ou pas.
Oui, parce que c'est vrai qu'en fait on l'explique pas, mais en fait le vaisseau donc part en direction du soleil, donc avec cette bombe, et la forme du soleil, enfin la forme du vaisseau, c'est comme un espèce de parapluie, donc avec un gigantesque dôme qui protège en fait sur le long sur un long couloir en fait les différentes unités donc où vivent la compagnie. Et donc le principe même, c'est donc de se rapprocher à fond jusqu'au soleil pour envoyer, enfin expulser au dernier moment,
c'est ça,
on va dire, la bombe, quoi.
Et ce qui est bien, c'est que du coup dans le film le facteur humain va être assez régulièrement mis sur le devant de la scène, c'est-à-dire que, sans spoiler, même si on l'a déjà fait, il y a des passages où en fait il va y avoir des décisions humaines à prendre en connaissance de cause et en connaissance du risque scientifique ou non. Et en fait, tout ça va avoir un effet domino, quoi, un effet des conséquences. Et en fait, c'est assez intelligent d'avoir gardé l'humain vraiment au centre du film et au centre finalement de la dramaturgie et des relations entre chaque personnage. Parce qu'il y aura aussi pas quelques conflits, mais assez minimes finalement. Voilà. Mais voilà, en fait, ça va vraiment être l'homme face au comment dire, tout puissant quoi.
Tout puissant soleil. Le soleil, en fait, dans ce film, c'est un être mystique, en fait.
C'est ça, ouais.
On a une déification que même, en fait, les scientifiques ne peuvent l'expliquer, chose que l'on voit notamment avec Kappa et d'autres personnages. Mais on peut déceler forcément ici un parallèle avec un autre film qui relie un peu ça, c'est Solaris, forcément,
ouais, c'est
de Tarkovsky,
Solaris, ouais.
Par l'influence quasi hypnotique en fait que le soleil exerce sur les astronautes,
ça, ouais.
Et le personnage de Searle est le plus représentatif là-dessus, forcément.
Et Danny Boyle expliquait que de toute façon, quand tu fais un film de science-fiction, il y a trois œuvres qui peuvent pas être ignorées, c'est Alien de Ridley Scott, oui. Solaris de Tarkovsky et le 2001 de Kubrick. Ouais. Il a dit tout n'est que finalement soit expansion de ce que ces films ont amené, ou alors référence ou citation, mais en tout cas,
et
voilà.
Cela a été une de ses plus grandes craintes quand il a provoqué, on va dire, ce travail, en fait, quand il a voulu se lancer là-dessus, parce qu'il s'est dit, mince, je vais vouloir me comparer à tous ces cinéastes, que vais-je faire, comment je vais pouvoir m'en sortir, et finalement, en fait, c'est vrai que il se démarque, en fait, je trouve, des autres films de SF par ce traitement-là, le traitement du soleil.
Ouais, c'est ça. Bah, c'était le gros défi pour eux, et de toute façon, ils ont utilisé des techniques de tournage, ils ont tourné en... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, en anamorphique, je crois que je l'ai noté quelque part. En anamorphique, ouais, c'est ça. Je suis pas un spécialiste technique, mais en gros, ça permet de compresser l'image et du coup, de donner une sensation de malaise aux éclairages et ensuite de les faire ressortir d'une manière, enfin,
beaucoup plus puissante, en
ouais,
fait.
Ouais, c'est ça, dans les traitements ensuite en post-prod, quoi. Et voilà, leur vraie question, c'était comment représenter ce soleil, comment représenter à la fois le côté, l'attraction du soleil, mais en même temps ce que ça peut provoquer au niveau de la folie, au niveau du malaise, etc. Et ils ont réussi intelligemment à le faire d'une façon technique, mais aussi par la musique, mais par les ambiances sonores et le sound design, et aussi qui est superbe, enfin, qui joue à 40%, je trouve, à l'immersion du film, et aussi par les réactions des personnages qui, bien qu'étant caractérisés d'une manière assez simpliste, au final permettent de comprendre réellement ce qu'il veut donner comme enjeu de manière humaine, quoi. Et ça c'est bien vu, je trouve.
Oui, parce qu'on est sur un questionnement très philosophique, très sensoriel, comme tu le disais. En fait, il y a plusieurs développements progressifs sur ce que le soleil en fait peut faire sur l'être humain dans cet équipage, parce que finalement on voit d'abord Searle, en fait, qui a cette fascination, pas plus qu'autre chose à la base, même si finalement par la suite lui-même va vouloir provoquer en fait sa vision du soleil en se mettant à 100% pour se sacrifier quand il va revenir sur Icarus 1 et non pas le 2. Et en fait, donc, de l'autre côté, en fait, on a donc aussi par exemple le personnage de Canada qui va donc mourir en fait en voulant donc retravailler en fait le dôme qui s'est retrouvé en fait face à une mauvaise trajectoire, en fait, un mauvais calcul du personnage donc de Wong. Et là, en fait, à ce moment-là, c'est ça qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que Canada, en fait, se sachant, en fait, je pense, perdu à ce moment-là, en fait, il a loupé, on va dire, le coche de se sauver au bout de quelques secondes, décide de se retourner, de se retrouver confronté au soleil.
Ouais, mais
il y a une certaine fascination, en fait.
Ils veulent se mettre face à l'absolu.
Voilà.
Ils veulent savoir ce que c'est.
C'est l'homme qui défie Dieu.
Voilà, c'est ça, exactement. Et ça se fait dans des scènes qui sont vraiment esthétiquement somptueuses, surtout pour l'époque.
Ouais.
Je trouve qu'il a un tout petit chouïa vieilli, mais même pas tant que ça. Mais aussi par l'écriture des personnages et par leur manière d'évoluer. Le film est assez court, il fait 1h40. Et je trouve qu'il arrive vraiment bien à condenser toutes ces matières-là pour faire un film vraiment assez viscéral au final. Quoi. Donc vraiment, il y a... Et puis, il y a des éléments un petit peu du film, donc il y a des éléments du film science-fiction, bien évidemment, du film un peu drame psychologique, etc. Mais il y a aussi des éléments du film d'horreur.
Ouais, c'est le dernier acte du film.
C'est notamment le dernier acte, et en fait, à travers cette dimension horreur, c'est là qu'il va mettre en avant tout ce concept de qu'est-ce qu'on est face à Dieu, et il
c'est
ne
ça.
Faut pas défier Dieu.
Oui.
Dieu.
Oui, parce que finalement, en fait, pour définir un petit peu l'histoire du film en différents actes, le début, en fait, du film a un rythme très lent, surtout sur la première heure, parce que finalement, on est sur un côté très hard SF,
qui
va donc imposer un rythme mesuré avec des plans longs.
Ouais. Et assez intimiste aussi.
C'est quelque chose que Boyle le savait, et c'est pour ça qu'il a quand même travaillé cette mise en scène de cette manière-là. Et c'est vrai que la deuxième partie donc, va vraiment lancer un peu plus l'histoire et l'intrigue, car en fait, donc, il se retrouve en fait, donc, avec suite des avaries, ils vont découvrir en fait Icarus 1.
Qui est le vaisseau, un vaisseau qui avait été envoyé 7 ans avant pour voilà. la même mission, mais qui s'est retrouvé perdu, qui donnait plus signe de vie et Exactement. La mission a échoué.
La mission a échoué, donc ils décident de prendre la charge de Icarus 1 pour doubler les chances en fait de relancer le pouvoir du soleil.
À nouveau sur un choix et une considération qu'un humain doit prendre.
Et c'est là qu'arrive donc le troisième acte qui part presque sur on va dire un slasher avec donc le personnage de Pink Baker qui était en fait le chef de Icarus 1 qui est incarné donc par Mark Strong, même si on le voit pas par l'image.
Ouais, ouais.
Donc en fait qui va devenir fou en fait en cours de route, qu'il a saboté donc sa propre mission. Et donc en fait il représente à la fois le fondamentalisme religieux, je trouve, parce qu'en fait il est brûlé par le soleil, il est persuadé d'avoir rencontré Dieu face à lui, et aussi forcément cette volonté de laisser les choses faire.
Ouais,
c'est une décision de Dieu de détruire l'humanité.
Bah si le soleil meurt, c'est Dieu qui, enfin c'est on doit pas l'humain ne doit pas intervenir là-dedans. Mais bon, encore une fois, c'est plutôt bien vu de la part de Danny Boyle d'avoir fait une espèce de grande tragédie, mais même pas humaine, juste de tout, quoi, de tout ce qui existe, puisque les enjeux sont même pas juste humains, il s'agit quand même de rallumer le soleil. Mais voilà, il savait dès le début que scientifiquement parlant, ça tenait pas du tout la route.
Ouais.
Mais
Que le film, en fait, dès le départ, en fait, il pouvait juste envoyer une sonde.
Ouais, c'est ça.
En fait, un équipage.
Voilà, c'est ça. Et puis, théoriquement, le soleil, il est pas censé s'éteindre. Il est censé grossir.
Grossir et se détruire. Oui.
Ouais, et se détruire. Voilà.
Puis devenir une naine blanche et après.
Ouais. C'est ça. Et du coup, c'est finalement pas ce qui est très important. Au final, ce qui est important, c'est de définir de manière assez simple et assez basique. La situation initiale pour que le spectateur il puisse très facilement suspendre son incrédulité et ensuite voir tous les enjeux dramaturgiques qu'il y a entre les déjà des personnages entre eux parce qu'il y a forcément des caractères qui vont se rentrer dedans
forcément. Les personnages en fait plus ou moins représentent l'humanité de manière globale et générale pour un peu caractériser ces personnages qui sont quand même très un peu hollywoodiens dans l'écriture
ils sont assez faibles les personnages en termes d'écriture mais
On a le personnage de Kappa, donc campé par Cillian Murphy, qui est un physicien nucléaire, qui représente donc forcément la logique. On a donc Cassie, incarné par Rose Byrne,
qui représente
l'émotivité.
Ouais. Oui, voilà, l'émotivité.
En plus, forcément, Cassie, il y a toute une relation avec forcément les personnages mythologiques, Cassiope. Mace, qui est incarné par Chris Evans, qui est le militaire, c'est la détermination. La mission doit réussir, quoi qu'il en coûte. Harvey, donc Troy Garrity, donc, qui est l'expert en télécom, lui, c'est la mélancolie. Ça se voit notamment par plusieurs séquences dans ce film. Lui, il veut rester chez lui. Ça se voit avec la séquence notamment contemplative, où en fait, ils fixent tous le soleil pour vraiment se remémorer en fait le principe de leur mission, donc de relancer la chose. Donc ça permet en plus au film de découvrir tous les personnages. Et en fait, c'est le seul qui ne regarde pas le soleil.
Ouais.
Il fixe la tête vers le bas. Il regarde en fait vers le bas pour penser à autre chose parce que c'est un personnage en fait qui ne veut pas être ici.
Et c'est lui qui est, oui, c'est lui le mélancolique. Attends, rappelle-moi, c'est celui qui
va donc pas vouloir laisser la combinaison.
Alors du coup, c'est assez marrant pour ce personnage en fait, la chef d'écho avait caché dans son décor, donc dans la chambre qu'il occupe, enfin dans le petit dortoir qu'il occupe, elle avait caché avant le tournage des lettres d'amour qu'elle a écrites elle-même. Ouais. Et qui en fait sont très très belles quoi. Et en fait le mec les découvrait au fur et à mesure du tournage. Et en fait ça lui permettait d'être encore plus dans son personnage et de camper encore mieux le personnage mélancolique. Je trouve que c'est une bonne idée.
C'est une excellente idée. Ouais. Bah ça montre encore la technique qu'on voit en fait de chez Nadie Bolt. Je pense qu'il a toute l'équipe pour lui de travailler sur le principe de méthode en fait, de laisser libre cours à ses personnages quoi. Et c'est vrai qu'en fait ça se voit encore plus, je dirais même. Part aussi son travail d'expérimentation. Alors c'est vrai que Boyle en fait c'est un mec qui travaille beaucoup l'image, peut-être même qu'en fait ses méthodes en fait de réel ont peut-être un peu vieilli avec le temps d'une certaine manière, il faut quand même le dire. Mais on voit quand même, malgré le côté hard SF dès le début du film, en fait il va vraiment au fur et à mesure travailler sur des moments très particuliers. sa mise en scène. Donc par exemple, notamment les images subliminales lors de la découverte de Icarus 1.
Ouais, ça c'est génial, ça m'avait scotché à l'époque au cinéma, vraiment.
Les, notamment aussi quand les arrêts sur image, en fait, lorsque Kappa tente désespérément de rejoindre la bombe.
Ouais, ouais.
Avec les, des fois, il y a un espèce de freeze aussi.
Ouais, il y a des effets stylistiques très clip, quoi, finalement très, très numérique. Mais,
comme, par exemple, aussi, peut-être l'un des éléments aussi les plus déclencheurs, c'est la distorsion pardon, visuelle faite par des caméras à double objectif qu'il a utilisé, notamment à chaque apparition du personnage de Pim Baker, donc par Mark Strong. En fait, c'était une façon de faire de ce personnage en fait comme une espèce de présence spectrale et non pas comme un simple humain.
Donc, ça marche bien.
On le voit pas.
Ça marche bien parce que tu sais jamais ce que c'est. Est-ce que c'est un alien au final? Est-ce que c'est un corps étranger?
C'est ça.
Est-ce que c'est juste quelqu'un qui a gagné une force surhumaine à force de sombrer de plus en plus dans la folie et d'être de plus en plus lié à l'absolution divine?
C'est
quoi.
Ça.
Ou est-ce que c'est une idée? Ou est-ce qu'on sait jamais vraiment quoi? Et, et au final, tout le dernier acte, donc toute la partie où Pink Baker est dans le vaisseau et qui ressemble finalement presque un peu à Alien finalement.
Ouais,
quoi.
Ouais,
ils essayent d'échapper à cette présence qui veut saboter la mission quoi.
Qui veut les tuer, tout simplement.
Qui veut les tuer. C'est là que Danny Boyle va user de ces effets un peu clipesques qui me dérangeaient beaucoup à l'époque parce que je trouvais que c'était que ça desservait le film, que ça lui donnait une teinte trop surréaliste. Mais au final, c'est quand même ça transmet le fait que plus ils approchent du soleil, plus il y a une distorsion
totale
entre l'espace et le temps. Et du coup, c'est par ces effets qu'on ressent ce côté vraiment où il y a plus rien qui.
Mais
y a plus
surtout qu'au final, en fait, chacun va mourir sur ses différentes façons, parce que comme je l'ai expliqué, chaque personnage a une humanité. Et forcément, aussi, chacun choisira un peu sa fin.
Ouais, c'est
on
ça.
On a
ouais.
le sacrifice, on a l'illumination, on a le suicide.
Ouais.
Et forcément, il y a tout ce développement-là, et le seul finalement qui va pouvoir réussir sa mission, c'est forcément le seul qu'il devait sauver par-dessus tout, comme l'explique Mace, c'est Kappa.
C'est Kappa, et puis c'est également, pour être un peu dans l'extra-diégétique, c'est également la voix off du film.
Oui.
Kappa est celui qui narre les événements dès le début. En plus, il a une voix assez douce, je trouve, Cillian Murphy. Et d'ailleurs, il a un visage aussi assez particulier, avec des traits très, extrêmement fins. Et Danny Boyle disait qu'il adorait le fait de lui mettre autant d'enjeux sur son visage. Il aimait le fait que le spectateur puisse très vite accorder toute sa confiance.
C'est pour ça qu'on le voit dès le départ, notamment sur le fait de parler avec sa famille sur son long voyage, en fait, parce qu'ils ont, les télécommunications qui forcément mettent du temps à venir. Mais du coup, lui aussi va également perdre aussi ce moment de douceur, parce que finalement, en fait, un des autres personnages va prendre trop de temps. Enfin, non, c'est Kappa qui va prendre trop de temps.
Ça. Bon,
et c'est un des autres qui va se venger.
Il va y avoir un conflit par rapport au fait de communiquer avec la famille, parce qu'ils vont rentrer dans la dead zone, donc un moment
ils ne pourront plus parler.
Voilà, les communications seront plus possibles, et du coup Kappa prend trop de temps à discuter avec sa famille, et du coup un des autres personnages ne peut plus le faire, donc il y a des conflits internes quoi dans le vaisseau, mais c'est plutôt bien, c'est pas très important au final compte tenu des encore une fois des enjeux de SF, mais ça très rapidement ça permet de comprendre vraiment comment fonctionne ce vaisseau quoi. Et puis parce que de toute manière voilà le postulat de départ c'est le huis clos quoi, c'est le huis clos, et puis c'est huit caractères très opposés qui doivent vivre ensemble avec une mission qui les dépasse quoi.
C'est un caractère opposé qui diffère, donc chaque personnage qui représente une certaine humanité qui forcément aussi se retrouve confronté. Quasiment dans tout le film, en fait, on a vraiment une confrontation réelle entre le mysticisme et le pragmatisme.
Ouais.
Finalement, c'est comme... c'est presque un conflit, en fait, qui est relié à travers les deux, les deux acteurs principaux du film, donc à savoir Garland et Danny Boyle. Et c'est vrai qu'en fait, c'est peut-être la force du film, en fait, qui fait ça. C'est-à-dire, il y a toujours une confrontation entre les deux qui amène aussi... ça, c'est un point important que voulait Danny Boyle dans ce film, c'est qu'il a retravaillé la fin. Car à la fin, en fait, donc Kappa donc va enfin activer donc cette fameuse bombe nucléaire, et en fait, il va se retrouver entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir d'un côté en fait la surface du soleil, et de l'autre le début de la bombe.
Et c'est une image assez forte, hein.
Qui est encore plus magnifiée par la musique.
Et moi, je me souviens, c'est un film qui m'avait énormément marqué au cinéma parce que il m'avait happé par des images fortes, des trucs qui ont été impactants et qui encore fonctionnent encore aujourd'hui. Les images subliminales, je me souviens, j'avais quasiment sursauté.
Ouais, les images subliminales dans Icarus, en fait, on voit des photos d'équipage.
de l'équipage de Icarus 1, et en fait à peine ils pénètrent dans le vaisseau, ben il y a ces images de, enfin c'est une photo de eux à Noël.
Il y a un léger effet sonore.
Il y a un léger effet sonore, et en fait ça permet de questionner tout de suite sur la présence de l'équipage ou leur absence. Enfin c'est génial, c'est des interférences en fait, et ça fonctionne trop bien. Il y a évidemment la musique qui est incroyable, la musique de John Murphy.
John Murphy avec Underworld.
Donc Underworld, c'est un groupe d'électro, enfin de techno britannique, avec qui Danny Boyle avait déjà collaboré sur Trainspotting. C'est la musique qu'on entend à la toute fin de Trainspotting. Et donc en fait il a travaillé avec eux pendant la création et pendant le tournage du film. Il leur envoyait des éléments un peu des rushs, et Underworld créait une expérimentation sonore,
des débuts
d'ambiance, des nappes, et ensuite à la fin du processus c'est John Murphy qui a retravaillé, qui a harmonisé la musique en lui donnant un côté plus enveloppé et plus musique de film, voire même presque plus classique.
En fait ça développe toute une symbiose entre donc l'image et le son, et surtout qu'en fait il y a une symbiose déjà entre le travail de Murphy et le travail d'Underworld, en fait
c'est ça,
parce qu'on a la confrontation entre le côté très classique de Murphy et l'expérimental.
C'est ça, et c'est une musique très musique de film. Elle a vraiment un côté très musique de film, un peu grandiose, etc. Mais en même temps, c'est une musique assez insaisissable par les relents électro.
Surtout la musique de fin, donc qui s'appelle Adagio in D mineur, qui a été réutilisée.
Bah maintenant, c'est une pub pour les assurances,
à
quoi.
Foison.
C'est ça le problème, voilà. Un petit peu. Mais faut pas oublier qu'elle vient de Sunshine.
Elle est plus connue que le film.
Elle est plus connue que le film, et voilà, et c'est préjudiciable. Enfin, c'est pas préjudiciable, mais bon, c'est un peu. Disons que la survie de toute la création vaut plus qu'une bonne assurance, quoi, je pense. Hein. Après, peut-être que je me trompe. Mais bref, donc voilà, la musique joue énormément à cette ambiance. Elle m'avait sidéré. Je me souviens, à l'époque, la musique m'avait sidéré. C'était déjà le cas dans 28 jours plus tard. La musique m'avait vraiment scotché. Et je trouve qu'il y a vraiment une harmonie, une osmose entre l'ambiance visuelle et l'ambiance sonore dans les premiers films de Danny Boyle.
Bah, surtout le morceau, Adagio in D mineur, en fait, il apparaît deux fois dans le film, notamment durant la mort de Kaneda, et après avec le tout dernier acte, quoi, qui prend un peu plus d'ampleur même.
Et puis il y a ce côté très progressif, très dans 28 jours plus tard, il avait utilisé du post-rock pour symboliser la découverte du Londres ravagé par le personnage. Là, donc il y a
c'était déjà John Murphy en
c'était
plus.
C'était déjà Kylian Murphy. Oui, et puis c'était déjà Kylian Murphy.
Et deux Murphy.
Ouais. Mais là, non, la musique c'était Godspeed You Black Emperor.
C'était Godspeed. Ah oui, le morceau là, oui, pardon, j'ai cru que tu parlais de
Et donc c'est très
musicale.
Évolutif, et puis c'est une musique qui va vraiment, qui va vraiment grimper. Et émotionnellement, ça marche vraiment du tonnerre. Et vraiment, moi je pense que la musique, elle joue vraiment énormément dans la puissance, dans l'évocation de tous ces trucs. Même si le film il a quelques défauts et qu'il est un peu bancal et qu'il est un peu vieilli, je trouve que ça continue à vraiment marcher du tonnerre, quoi.
Clairement. Mais c'est vrai que c'est une des forces en fait du film, je pense, en fait cette vocation à travailler à fond la direction artistique et surtout musicale. Il y a vraiment une sobriété d'ailleurs technologique qui est dominée par le noir, gris, bleu, notamment pour représenter le vaisseau, la vie qui s'y déroule pour arriver à cette mission. Et de l'autre côté, en fait, on a cette luminosité naturelle à dominante de jaune et rouge.
Ouais, c'est ça, ouais.
Où en fait, il y a ce principe d'expérimentation, on va dire, visuelle, qui va accompagner forcément le côté symbiotique renforcé par la musique, quoi.
En fait, c'est un film qui est assez sensitif. Il va beaucoup te prendre par les sens, et en fait, c'est voulu.
Déjà, c'est incroyable, c'est de se dire en fait quelle touche musicale pourrait-on donner à une lumière, en fait.
C'est ce que
va faire le film.
À une lumière, et puis aussi au vide cosmique, quoi. Donc c'est vachement important. Les personnages sont autant la folie des personnages va être autant liée à la solitude que au fait d'être confronté à l'absolu et au divin, quoi. Donc voilà, et là encore il faut une musique qui réussisse à transposer ces deux sensations et de qu'elles se complètent, et c'est aussi le cas dans dans la manière de tourner. Ils ont volontairement voulu faire des plans très sombres pour le vaisseau, pour que justement, quand il y a des passages où le soleil joue un rôle, que le spectateur soit réellement, viscéralement ébloui, quoi. Et en fait, encore une fois, je reviens sur ma séance de cinéma qui date pourtant d'il y a quasiment 17 ans, quoi. Elle m'avait vraiment, vraiment marqué, quoi.
Ouais, moi, ce qui me faisait marquer encore à cette époque, c'était aussi quand il y a la découverte d'Icarus 1, où il y a toute cette poussière sur le vaisseau, et qu'en fait on sait très bien que forcément ce genre de poussière, en fait, ça vient donc des décors, en fait, donc et qui est quand vraiment cette découverte assez macabre là-dessus, quoi.
Ouais, mais le film,
il y a une force, en fait, assez évocatrice à travers tout le film, je trouve.
Le film, il jauge très bien, enfin, il arrive très bien à doser l'aspect horreur, l'aspect mélancolique, l'aspect, le solaire, etc., la sobriété, le côté sombre, le côté solaire, le côté grandiloquent, etc., et le plausible scientifique, même si on sait très bien que, bon, bah voilà, c'est absolument pas, ça ne tient pas la route scientifiquement, mais ça reste des éléments plausibles quand tu les prends indépendamment, quoi.
Je trouve que c'est un film qui, malgré, on va dire, sa structure, semble très, on va dire, lambda dans le milieu de la science-fiction, mais en fait, c'est un film très, très organique et très unique en son genre, en fait. Et pour on va dire terminer dans cette émission, il faut quand même revenir sur l'après Sunshine. Et donc le film sort le 11 avril 2007 et c'est un flop magistral.
Ouais, c'est un gros flop, je crois qu'il a fait à peine 350 000 entrées ou 400 000, quelque chose comme ça.
Sur les 400 millions
en France,
sur les 400 millions initiales, donc dans le budget plus les dépassements.
40 millions.
Bah, j'ai dit combien?
400.
Ouais, non, 40 millions, pardon. Oui, 400, on n'y est pas encore. Sur les 40 millions initialement, donc en prévision en plus des dépassements, donc Sunshine n'a rapporté que 32 millions au box-office mondial.
Ouais, donc c'est un raté pour...
C'est un raté violent.
C'est un raté violent, et puis c'est un raté finalement un petit peu aussi artistique qui va sonner la fin de la collaboration entre Danny Boyle et Alex Garland. Jusqu'à prochainement, quoi.
Oui. Bah, en fait, c'est un film qui a jamais laissé indifférent, en fait, que ça soit au niveau du public et de la critique. En fait, on avait des critiques assez dithyrambiques, d'autres qui étaient beaucoup moins. Pareil du côté du public. En fait, c'est un film qui peut-être réussit en son sens parce qu'en fait, il n'a jamais laissé indifférent.
Ouais, c'est ça. Et puis, il fait partie de cette petite catégorie de films un peu mal aimé et un peu et justement que
presque oublié.
Et qui est extrêmement culte pour pas mal de petits groupes de geeks, quoi.
Ouais, non, tu me regardes, mais
je te regarde, t'es mon seul interlocuteur, donc forcément je te regarde. Mais oui, c'est vrai qu'on a toujours... toi comme moi, on a toujours adoré ce film.
Je pense qu'en fait, on a été aussi fasciné par la même, en fait, du travail de Boyle à cette époque-là. Et quand on a vu qu'il allait faire un film de science-fiction, s'est dit, ok, bon, bah là, ça peut être le film qu'on attend le plus. Il ne nous a pas déçus.
C'est vrai.
En son sens, parce que on connaissait déjà le travail de Boyle. Je connaissais pas trop le travail de Alex Garland déjà à la base. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un film qui n'a pas démérité, en fait, son style, car en fait je trouve que Boyle a réussi à parvenir à maintenir son style de mise en scène tout en restant dans le carcan du genre de science-fiction.
Et en s'élevant, je trouve, un petit peu. Mais moi, Boyle, c'est un réalisateur que j'aimais beaucoup. Encore une fois, c'est un réalisateur qui est assez affilié à l'adolescence, quoi. C'est le genre de film que t'adores, ado, Trainspotting et compagnie, voilà. Et puis, il m'avait tellement marqué avec 28 jours plus tard. La science-fiction, c'est un genre que j'adore par-dessus tout. Et du coup, bah, là, tout était réuni, effectivement. Et c'est vrai que c'est un film qui m'avait vraiment, vraiment profondément marqué parce qu'il était à la fois ancré dans le style de Danny Boyle, il était pas décevant, et en plus de ça il avait tous ces enjeux dans lesquels je m'étais énormément retrouvé par rapport ne serait-ce qu'à des réflexions sur le
sur les
abysses, hein. Moi je suis assez client de ce genre de thématique,
il y a des plans incroyables, en fait, dans l'espace aussi, dans ce film,
donc toujours, quoi. Et voilà, forcément le film a ce petit côté un peu oublié et un peu que les gens aiment bien réhabiliter de temps en temps, quoi.
J'aime assez bien le côté symbolique, même si forcément il y va pas avec subtilité. Des fois, il y a des gros sabots, parce que le nom du vaisseau s'appelle Icarus.
Ouais, voilà, mais bien sûr.
D'ailleurs, on voit la destruction de Icarus 1. En fait, on voit qu'il y a même les ailes d'Icar
qui sont
brûlées sur le dôme du vaisseau. Mais je trouve qu'en fait, il y a aussi beaucoup de choses d'intéressantes dans ce film, dans sa conception. Car en fait, c'est un film a rendu peut-être certes un peu amer Garland sur le résultat final, mais je trouve qu'en fait Boyle a réussi à faire quelque chose de peut-être qu'il se sentait pas assez grand pour ce genre de projet. Hein. Boyle va même dire qu'il n'a pas du tout apprécié le fait de travailler constamment en studio.
Ouais, bien
il dira
sûr, ouais.
de son propre aveu qu'il ne fera plus jamais de films de science-fiction.
Oui, et puis il avait un trop gros budget. Lui, il était habitué à des
Était habitué à des films beaucoup plus moindres, on va dire des sommes de plus de 20 millions grand max. Là, il avait le double. Et c'est vrai qu'en fait, je trouve que ça reste très intéressant parce que c'est un film qui peut-être tel un peu comme son Icar, en fait ils se sont peut-être un peu brûlés les ailes sur ce projet.
L'ambition elle est assez démesurée hein, quand même, ce genre d'histoire voilà c'est quand même parti, enfin c'est audacieux quoi de raconter ce genre d'histoire aussi rapidement. Enfin, tu serais prêt à attendre un film qui dure 3h30 quoi, tu vois, avec ce genre de thématique.
Oui, c'est un film qui aurait pu durer 2h, 2h20 sans problème.
Ouais, facilement, ouais. Bon, les scènes coupées sont assez longues, je crois qu'il y a quasiment 25 minutes de scènes qui ont été coupées au montage, plus ce qui a été sucré sur l'écriture.
Sur l'écriture.
Moi je pense que qu'une romance entre Cassie et Kappa aurait pu fonctionner parce que les deux personnages dégagent quelque chose d'assez unique. Mais bon, après, c'est tout aussi bien d'être resté un peu pragmatique là-dessus et d'avoir gardé. Finalement, ils ont tous une histoire, enfin, ils ont tous une romance avec leur mission, quoi.
C'est plus ou moins la même chose, ouais, parce que finalement, Kappa donc, devait vraiment s'occuper totalement de sa, on va dire, de sa bombe.
Ouais.
Cassie, en fait, était là un petit peu pour être
c'est la pilote, c'est une des pilotes, je crois.
C'est une des pilotes, oui, qui devait représenter forcément la compassion entre tous les personnages, parce que finalement, elle est reliée avec tout le monde, puisque c'est elle qui les dirige.
Ouais.
On a Mace, en fait, qui lui, était la détermination pure et dure.
Il y a vraiment quelque chose de tragique, tu vois, dans le fait qu'ils soient tous connectés à leur mission.
C'est ça.
Corps et âme, quoi. Enfin, ça reste quelque chose qui pour moi fonctionne encore aujourd'hui vraiment extrêmement bien, quoi.
Un peu comme le personnage de Wong, en fait, qui va donc s'en vouloir, en fait, d'avoir tué involontairement Kaneda, parce qu'en fait c'est à cause de lui qu'il y a une mauvaise trajectoire face au soleil, et donc décide de se suicider parce que il y reste plus beaucoup d'air, et donc pour que tous les autres puissent parvenir à la mission préfère mourir, quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a aussi il y a cette notion
comme Searle aussi qui va se sacrifier en restant sur
Icarus. Il y a cette notion de sacrifice qui est constamment mise en avant dans le film. Il y a vraiment des thématiques qui sont fortes, qui sont vraiment très très denses et auxquelles le film répond, je trouve, avec des points d'incise qui sont vraiment pertinentes et très précises et qui touchent. Certes, ça développe pas grand chose et ça va pas trop loin, mais ça vraiment c'est des points d'acupuncture, quoi. Ça touche vraiment pile poil où il faut.
Ça.
Et de manière très simple et très, très précise. Et en fait, c'est comme ça que le film finit par fonctionner dans son ensemble. Quand tu mets en parallèle également l'aspect visuel, le sound design, la musique, même l'acting, je trouve qu'ils s'en sortent tous très bien. Donc voilà, c'est un film que personnellement j'adore et c'est un de mes films de SF préférés des années 2000 haut la main, quoi.
Ouais, clairement. Alors c'est vrai que Boyle, en fait, par la suite, donc, va travailler sur des films que l'on va dire un peu plus terre à terre. Alors, c'est notamment Slumdog Millionaire, c'est un peu le film qui va aussi le foutre au firmament à Hollywood avec les Oscars.
C'est la première fois qu'il a eu un Oscar. Hein,
oui,
c'est ça,
voilà. Ouais. Et après, donc, il va continuer avec 127 heures. Alors, c'est vrai que sa filmographie est vraiment dans de scie par la suite, hein, que ça soit Trans, Steve Jobs ou Trainspotting 2. Et il est revenu en 2019 avec Yesterday. Et de son côté, Alex Garland, comme je l'ai dit, en fait, il va enfin passer derrière la caméra. Il va continuer dans la SF, notamment avec son premier film, Ex Machina.
Bah, il a fait que de la SF, je crois.
Ou Annihilation. Après, Men, bon, on est un peu plus sur du thriller psychologique.
Ouais, et puis comment on appelle ça, des films un peu métaphoriques. Comme
on est plus sur du méta,
qui
méta horror.
Il m'avait pas trop plu. Il s'est lancé dans la série aussi avec Devs.
Ouais, Devs. Et puis il a sorti donc son Civil War aussi récemment, film que je trouve un peu intéressant quand même sur l'idée de questionnement sur le journalisme en termes de conflit.
Moi, je trouve qu'il y a à boire et à manger dans le Garland réalisateur dans tous ses films, sauf Annihilation, qui est une merveille.
Ouais.
Pareil, qui joue vraiment sur les ambiances et ce côté mystérieux, ce côté labyrinthique, et puis le vide sidéral, et l'errance, quoi. Enfin, c'est vraiment Annihilation, je trouve que c'est vraiment une merveille, quoi.
Et donc, quasiment 20 ans après, plutôt 18 ans après, donc Garland et Boyle vont se retrouver enfin, donc pour conclut, on va dire, cette trilogie donc de 28 jours plus tard, avec donc 28 years later, donc ouais, 28 années plus tard, je pense. Ils n'ont pas encore donné le titre en français, mais je pense que ça va être celui-là. Ouais. Donc, qui va donc sortir normalement en 2025, potentiellement en novembre. Alors, c'est annoncé même en juin 2025 aux États-Unis. On verra très bien. Le film est en tournage, donc on retrouvera notamment Cillian Murphy au casting, accompagné donc de Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes et Jack O'Connell.
Ouais, là, je suis curieux.
Le casting est très intéressant.
Ouais, je suis très curieux. Parce qu'il y avait quand même ce truc qui fonctionnait bien, je trouve, dans l'écriture entre Danny Boyle et Alex Garland, notamment sur.
Moi, je trouve que la confrontation entre mysticisme et pragmatisme, que les deux se battent pour. Chacun de leur côté était très intéressant et se relie en fait très bien dans Sunshine quoi.
De toute manière Boyle c'est le réalisateur donc c'est lui qui a le dernier mot quoi, mais Garland était juste en fait il voulait épouser la dimension scientifique et science-fiction un petit peu plus c'est tout à son honneur moi je trouve qu'ils ont fait un bon boulot et au final je ne regrette pas les choix qu'a fait Danny Boyle parce que le film il tient aussi beaucoup sur sa mise en scène sur son esthétique pour déployer un petit peu toutes ces forces narratives quand bien même elles auraient quelques faiblesses quoi. Et du coup je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire pour 28 années plus tard sachant que c'est également Alex Garland qui avait écrit le 28 semaines plus tard donc le deuxième volet quoi, qui est très bien aussi mais qui n'est pas réalisé par Danny Boyle.
Réalisé par Fresnadio Carlos Fresnadio. Boyle a notamment fait la seconde équipe de tournage quand il y avait une petite pause sur Sunshine pour se ressourcer il allait sur un autre tournage
Sunshine était éprouvant visiblement pour Danny Boyle et était éprouvant pour l'équipe de Michelle Yeoh quand tu l'entends en interview elle disait qu'elle voulait le tuer quoi. Tous les jours elle le voyait arriver, elle avait une espèce de
boule au ventre,
ouais, de boule au ventre et l'envie de lui faire du mal quoi.
C'est pas étonnant
mais bon non c'est un film qui fonctionne et puis encore il y a aussi ce rapport à la nature, il y a plein de choses plein de choses intéressantes à prendre dedans quoi.
Donc si vous ne l'avez pas vu je vous conseille de le voir.
C'est un petit oublié, c'est une petite c'est pas non plus un trésor, enfin un film qu'il faut absolument récupérer, enfin retrouver comme un trésor, mais c'est un film qui a tendance à être oublié et je trouve que ça le.
Et c'est pour ça que cette émission a été faite.
Et ben voilà. Et ben merci en tout cas.
Merci à toi Jérôme, merci Pierre à la régie et donc on se retrouve pour la prochaine émission. Ciao tout le monde.
Salut.